en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
1859, archéologue et géologue dans l'épaisseur du temps, c'était le thème du colloque qui s'est déroulé fin juin 2009 à l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Deux jours de conférences qui avaient pour but de retracer historiquement les origines de l'archéologie préhistorique en tant que discipline internationale. L'angle choisi était celui du questionnement archéologique et géologique sur les plus anciennes industries du nord de la France et de l'Europe. Canal Academy, partenaire de cet événement, a choisi une sélection d'intervenants et vous retransmet ce colloque en quatre parties. Dans le premier volet, retrouvez Stéphane Tirard, maître de conférence des universités à Nantes sur le développement du courant évolutionniste. Dans une deuxième partie, retrouvez les Espagnols José Lanzarote, doctorant à l'Institut universitaire européen, et de José Farrugia de la Rosa, doctorant à la Société espagnole d'histoire de l'archéologie à Tenerife, sur la naissance de la préhistoire méditerranéenne. Le second intervenant s'exprime en anglais. Mais ici, dans ce troisième volet, intéressez-vous au regard des religieux sur cette nouvelle discipline qui était alors la préhistoire dans la deuxième partie du XIXe siècle. Découvrez dans un second temps comment les thèses évolutionnistes, puis la préhistoire, ont fait leur apparition en Pologne grâce à l'immigration, l'État infligeant de fortes répressions envers les scientifiques. Écoutez dans l'ordre Monique Rémy-Vatté, doctorante au CIRTET, Centre interdisciplinaire de recherche sur les mobilités à l'Université du Havre. Sa communication porte sur la naissance de l'archéologie préhistorique en Normandie, autour des années 1859, date de publication de L'évolution des espèces de Charles Darwin. Piotr Daskiewicz, biologiste et historien des sciences, chargé de mission au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, s'exprime sur le rôle des immigrés politiques dans la réception du darwinisme, la naissance de l'anthropologie et le début des recherches préhistoriques en Pologne. Enfin, Fanny de France, doctorante à l'École pratique des hautes études, se penche sur la question religieuse dans la première archéologie préhistorique. Tout de suite, Monique Rémy-Vatté.
La Normandie est effectivement une région voisine à la fois de la Somme, de l'Angleterre et de Paris. C'est aussi une région qui est caractérisée par un début précoce de structuration des recherches archéologiques, début limité certes, hein, avec la mise en place en Seine inférieure d'une commission des antiquités par deux préfets dès 1818-1820. Et puis toute une série de sociétés savantes, essentiellement cette fois autour de Caen. C'est donc assez logiquement que les événements de la Somme peuvent y avoir des répercussions. Ces répercussions vont se structurer essentiellement autour de trois hommes. Trois hommes différents par leur génération, leur formation et le rôle qu'il aurait alors reconnu. Et leurs interventions seront également fort diverses. Alors on va les prendre par ordre d'ancienneté, si je puis dire. Le plus âgé, Arcis de Caumont, est connu en particulier pour la série de fondations, de sociétés savantes, de congrès scientifiques qu'il a effectués. D'abord dans les années 1820, dans le cadre de la Normandie, et puis ensuite à l'échelle de la France entière. Ce qu'il veut, c'est favoriser les contacts entre savants, et ceci dans un cadre voulu de décentralisation par rapport à Paris. Du point de vue archéologique, Caumont, c'est d'abord d'une part un organisateur, un vulgarisateur, et puis c'est un spécialiste en fait d'archéologie monumentale, en particulier médiévale. Alors, ses rapports avec ce qui va devenir la préhistoire, il connaît la théorie des trois âges depuis au moins 1852, puisqu'il fait paraître un article sur le sujet, tout à fait dans sa perspective habituelle, c'est-à-dire d'information d'un public cultivé, intéressé par l'archéologie, l'histoire, donc quelque chose de descriptif, très clair, mais qui décrit la situation du Danemark sans poser de questions de transposition, de durée. Ses rapports avec Boucher de Perthes. Ils se connaissent depuis au moins 1839, hein, dans le cadre de la Société d'émulation d'Abbeville. Et puis, en 1847, Caumont a visité, sous la conduite de Boucher de Perthes, son beau cabinet. Nul doute, vu la date, qu'évidemment Boucher de Perthes lui a exposé ses hypothèses, ses théories. Théorie qui ne le convainc pas du tout, il l'avouera en 1868, clairement, c'est encore vrai, donc à l'occasion d'un congrès archéologique de 1849. Voilà donc, sur le point de départ, sur le premier de ces trois hommes. Le second, l'abbé Cochet, donc il y a une dizaine d'années de moins, est connu dans les années 1850 comme un archéologue de terrain de la Seine inférieure et spécialisé quasiment dans la fouille de nécropoles romaines ou mérovingiennes. C'est un des pionniers de l'archéologie mérovingienne. Par ailleurs, à cette époque-là, très clairement dans ses écrits et dans ses actions, l'abbé Cochet veut mettre en place une méthode d'archéologie scientifique. Bon, alors évidemment, on peut apporter en discuter certains aspects. Il n'en reste pas moins qu'il fait preuve de réelles préoccupations scientifiques et qu'il se pense et qu'il est vu par de nombreuses autres personnes, voire par des institutions, comme un spécialiste d'une archéologie de terrain rigoureuse. Il est intégré dans un réseau de relations et occupe des fonctions officielles ou semi-officielles. Les fonctions peuvent être soit décidées, si je puis dire, localement, soit à l'échelon national, mais ce sont à cette époque-là toujours des fonctions qui s'exercent à l'échelle du département, de la Seine inférieure. Quant au réseau de sociétés savantes, c'est à la fois bien sûr celle de Caumont, qu'il respectera toujours profondément, même s'ils auront certains désaccords. C'est donc à l'échelle aussi bien régionale que nationale, en dehors des sociétés de Caumont, et on le voit à l'étranger, en particulier l'Angleterre. De même qu'il a toute une série de relations avec des archéologues, alors d'archéologues historiques, si je puis dire, en particulier d'époque que nous allons appeler nous mérovingienne, aussi bien en Angleterre qu'en Suisse ou en Allemagne. Alors, Cochet travaille, dans sa perspective, sa volonté d'être scientifique, il travaille avec des tas de gens. Il échange avec des tas de gens, et pas seulement donc des archéologues, mais des scientifiques, pour faire des analyses, pour faire des identifications. Là encore, la liste n'est pas exhaustive, et nous voyons en bas que dans le domaine des silex taillés qu'il rencontre dans ses fouilles, Boucher de Perthes est un de ses experts. Ceci étant, on le verra tout à l'heure, Cochet connaît le silex taillé, si je puis dire, autrement que par Boucher de Perthes. Il y a toute une série d'échanges épistolaires entre Boucher de Perthes et Cochet qui permettent, alors en ce qui nous concerne évidemment ici, de voir d'une part qu'il y a un échange non seulement d'informations, mais d'objets, échantillonnage, identification de l'un par l'autre. Alors, dans un sens, Boucher de Perthes envoie en particulier des vases chrétiens, on faisait allusion à son intérêt hier pour des périodes enfin, très larges, et donc il a envoyé des vases chrétiens du XVIIe siècle funéraires, des vases chrétiens funéraires à Cochet. Alors, dans l'autre sens, Cochet envoie d'une part des silex taillés, et puis d'autre part, il pose des questions à Boucher de Perthes, parce que, par exemple, la géologie, on le verra, le diluvium, bon, bah, évidemment, c'est pas dans les couches qu'il fouille usuellement. Et par ailleurs, il joue le rôle de relais avec certains spécialistes britanniques d'archéologie plutôt classique en particulier, mais ce n'est pas le seul, avec Charles Roach Smith. Alors d'autre part, cette correspondance a trait à certains moments à leurs rapports respectifs avec l'Institut. En 1855, pour la troisième fois, Boucher de Perthes n'a pas été élu comme membre correspondant de l'Institut. Il en est évidemment fort marri. Il en entretient un certain nombre de ses correspondants, en particulier l'abbé Cochet, qui lui répond en amalgamant leurs deux situations. C'est-à-dire que, vu par Cochet, il y a finalement deux archéologies. Il y a les archéologues français, nationaux, qui se trouvent en butte à des gens qui ont l'autorité et qui sont des archéologues, j'allais dire exotiques, hein, en voyant la perspective dans laquelle se place l'abbé Cochet, une archéologie méditerranéenne orientale. Et donc, évidemment, ce qui les choque finalement le plus, c'est que ceux qui détiennent l'autorité sont des gens qui n'ont pas la compétence, et ça c'est important pour eux, du terrain qu'ils connaissent depuis des années. À noter que Caumont s'est heurté à la même opposition à propos de l'art gothique. Donc ils sont tous les trois sur le même plan en ce domaine. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'évidemment, Cochet ici alors, ne dit pas, est-ce qu'il ne perçoit pas le fait que si l'Académie des sciences s'oppose à Boucher de Perthes, il y a aussi d'autres raisons. Ce n'est pas évoqué dans d'autres passages non plus. Il nous en reste un troisième, beaucoup plus jeune. Georges Pouchet a donc 26 ans au moment des événements de 59, c'est donc une génération nouvelle, ça veut dire aussi une formation nouvelle. Lui, il a entrepris, parce qu'il n'a pas terminé, une formation dans le domaine qui va être celui de sa recherche et qui sera son domaine professionnel. Donc il a, pour l'instant, il a une licence de sciences naturelles et il devient l'assistant de son père. En 1856, son père est le directeur du muséum de Rouen, Félix Archimède Pouchet. Celui qui, à partir de 1858, va entretenir une querelle à propos de la génération spontanée pendant 10 ans avec Pasteur. À l'époque, les jeux ne sont pas faits. Félix Archimède Pouchet a une forte réputation et une partie de la communauté scientifique le soutient quand on est en 58-59. Et puis, dès l'époque, donc, le jeune Georges Pouchet est connu parce qu'il vient de faire paraître un ouvrage de la pluralité des races humaines, Essai d'anthropologie positive. Donc, positivisme, polygénisme. Ça lui vaut des ennuis, professionnels en particulier, mais ça lui vaut aussi une reconnaissance précoce. Et en particulier, donc, d'être accueilli rapidement au sein de la toute jeune Société d'anthropologie de Paris. En effet, donc, dès la troisième séance, Georges Pouchet de Rouen, sont-on obligé de mentionner, est accueilli et il participe ensuite activement aux premières séances. Donc voilà, en 1859. Après les expéditions anglaises, Boucher de Perthes entretient son ami Cochet de ce qui vient de se passer. Cochet lui répond, et dans sa réponse, ou qu'il le félicite bien sûr, il met les faits en relation avec l'information anglaise. En effet, donc, il lui soumet un article du Gentleman's Magazine qui reprend le compte-rendu que Evans avait fait en juin devant la Société des antiquaires de Londres. Et dans les mois suivants, Cochet va jouer le rôle de relais entre Boucher de Perthes et Parker, le directeur de cette revue. Bien, les visites britanniques se poursuivent et c'est donc le tour de Charles Lyell. Avant de rentrer en Angleterre, Charles Lyell passe à Rouen et en très peu de temps, ça va créer un tournant, il va donc au muséum rencontrer les deux Pouchet et il convainc très facilement le jeune Pouchet d'aller dans la Somme recueillir lui-même des hachettes diluviennes et les choses se décident vite. Bon, parce que, là, on ne sait pas jusqu'où, mais au moins en France et en Angleterre, les hachettes de la Somme sont passées sous les feux de l'actualité. Et donc, c'est un musée municipal. Le maire de Rouen envoie Georges Pouchet récolter, si possible, du matériel pour le musée. Alors, effectivement, mission qui se déroule pendant une semaine à la fin août, qui permet à Georges Pouchet de rapporter une vingtaine de bifaces de la faune, hein, du mammouth, et aussi ce qui traduit sa volonté nouvelle de scientificité, toute une série de prélèvements qui ont été conservés soigneusement au musée. Alors, les instances parisiennes entrent à leur tour en jeu. Donc, Albert Gaudry, bien sûr, et Georges Pouchet se tient au courant, le jeune Georges Pouchet, de l'actualité scientifique parisienne. Donc il lit les comptes rendus qui sont faits de ce qu'a dit Gaudry. Et alors là, protestation, mais comment ? C'est moi, le premier Français, qui ai découvert ces éléments. Alors évidemment, bon, il oublie deux choses. D'une part, une très grosse chose qui est Boucher de Perthes, bien sûr, et puis aussi Gaudry qui est venu 15 jours à peu près avant. Donc la lettre paraît. Alors évidemment, c'est le tour, cette fois, de la réaction de Boucher de Perthes devant les comptes rendus tronqués d'Élie de Beaumont et puis tous ces événements, disant « mais tout de même, ça fait des années que je vous entretiens de tout cela ». Alors Pouchet, ayant lu tout cela, lorsqu'il intervient à la Société d'anthropologie de Paris pour présenter un compte rendu beaucoup plus détaillé de sa mission, entre-temps, il s'est renseigné, parce que très certainement, il a, j'allais dire, foncé dans la Somme pour rapporter ses bifaces. L'information fournie par Charles Lyell a beaucoup insisté, sur les localisations, la spécificité du gisement, mais pas véritablement sur le contexte immédiat ou antérieur. Et donc, alerté de tout cela, Georges Pouchet, effectivement, lorsqu'il intervient devant la Société d'anthropologie de Paris, cette fois rend hommage à Boucher de Perthes et puis fait tout un historique de l'arrivée des Britanniques dans la période du printemps. Alors il n'empêche que Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, intervenant après, lui reproche de ne pas avoir assez rendu hommage à Boucher de Perthes et puis lui fait quelques objections d'ordre géologique, ce qui fait que lorsqu'il fait paraître en 1860 un compte-rendu scientifique beaucoup plus détaillé, eh bien, tout à fait honnêtement, Georges Pouchet dit, bah oui, j'ai voulu agir trop vite, voilà où j'en suis. Hein. Par ailleurs, du point de vue géologique, il se pose véritablement dans des positions actualistes dans cet article de 1860. Alors, pendant ce temps, l'abbé Cochet, il aurait bien aimé aller tout de suite, lui aussi, dans la Somme, et il obtient feu vert et financement du préfet, parce que cette fois, le motif s'est rapporté des Hachettes diluviennes pour le musée départemental des Antiquités. Pour des raisons diverses, il ne peut y aller qu'un an plus tard, en octobre. Immédiatement, selon son habitude, il rédige un rapport pour le préfet. Et dans ce rapport qu'il envoie à Boucher de Perthes, il dit à propos de ce rapport, pardon, à Boucher de Perthes, il pose bien la situation, « Je suis parfaitement incompétent sur la question géologique. » C'est clair. « Mais le côté historique et archéologique ne saurait m'échapper. » Ça, c'est donc la spécificité. Il se veut archéologue de terrain, nous l'avons vu depuis plusieurs années. De ce rapport, il ressort essentiellement quatre choses. Trois certitudes, une question. Première certitude, c'est taillé. Lui, il n'a pas ces difficultés qui étaient évoquées tout à l'heure. Alors pourquoi ? Parce que depuis plus de 10 ans, l'un de ses collaborateurs, Paul-Henri Cahun, lui montre et lui fournit, si je puis dire, échantillonnage de l'époque, des haches néolithiques, en fait. Mais donc il a la manipulation, si je puis dire, de l'outil taillé depuis des années. Donc ça ne lui pose pas problème. Deuxième certitude, et là c'est l'archéologue de terrain qui parle, c'est en place. La question, ben c'est celui qui n'est pas géologue qui parle, reste à savoir à quelle époque cela remonte et par quel processus géologique. La dernière phrase n'est pas juste une phrase de confort, question importante que le temps résoudra sans doute, parce que dans divers écrits d'Abbé Cochet, on voit qu'il a une confiance dans les rapports entre la science et le temps. Le temps permet toujours à la science d'apporter un progrès. Et ça se voit sur des sujets très divers, aussi bien la typologie des vases chrétiens que la question qu'on a ici. Donc ce n'est pas seulement histoire de dire « on verra ». Alors évidemment, sa dernière certitude nous fait un peu sourire. Il ne croyait pas qu'il était possible de faire des faux. Alors à ce sujet, Georges Pouchet, par contre, avait été beaucoup plus méfiant et effectivement avait constaté qu'il pouvait y avoir des faux. Alors l'abbé Cochet, on vient de parler des problèmes de rapport avec la religion, l'abbé Cochet, en fait, espérait bien pouvoir éviter ce problème d'opposition. Et il ne le peut pas, en fait, à cause de Boucher de Perthes soi-même, parce que le rapport que Cochet a envoyé au préfet, qu'il avait financé, va être publié par la Société d'émulation d'Abbeville. Mais alors, pour la publier, il faut des notes infrapaginales. Donc, échange de courrier. Et Boucher de Perthes a changé un mot dans une note infrapaginale par rapport à ce que voulait Cochet. Et Cochet lui écrit « Je vous prie de laisser diluvien au lieu d'antédiluvien que voulait Boucher de Perthes. » Alors, pour Cochet, diluvien, ça veut dire découvert dans le diluvium, et le diluvium, c'est une couche géologique. Si les géologues appellent ça diluvium, ça va. Antédiluvien, évidemment, on revient sur le problème de la Bible. La suite est intéressante aussi. Lui veut séparer rigoureusement les domaines, je dirais, pour son confort de vie intellectuelle. Science et foi sont deux choses. Et alors ensuite, s'il y a un décrochet, c'est parce qu'il a eu à repentir dans ce qu'il a écrit. Il avait commencé par écrire « La foi guide ma vie », et puis il a barré ma vie pour mettre mes mœurs. C'est pas la même chose. La science règle mes études. Boucher de Perthes répond, les 24 et 25 décembre, visiblement, on n'a pas la lettre, mais visiblement vigoureusement, parce que Cochet répond très vite à son tour, machine arrière, je ne voulais pas vous contrarier, agissez pour le mieux, donc bien sûr Boucher de Perthes va réintroduire antédiluvien, mais il en remet, si je puis dire, une nouvelle affirmation, je veux rester purement scientifique, purement lapidaire et archéologique. Bien, alors on a laissé le plus âgé comment en cours de route, si je puis dire, là la réaction va être totalement différente. Alors, on rentre à nouveau dans le cadre des sociétés savantes, mais cette fois de sociétés savantes d'archéologie qui font le plus souvent de l'histoire. Alors, qui parle aussi de monuments mégalithiques, mais dans un contexte historique. Donc, la Société française d'archéologie et les congrès d'archéologie, qui sont donc à l'échelle nationale, mais qui sont, pas uniquement bien sûr, mais largement impulsés par Caumont. Et en fait, il y a tout un cercle d'érudits, on va dire, qui agit, enfin, qui se situe dans cette même mouvance. Alors là, c'est clair. Là, c'est un extrait d'une lettre de Comot à son frère. La question de l'antiquité de l'homme a été vivement discutée au congrès archéologique de Dunkerque. C'est celui de 1860. Monsieur de Comot n'en veut pas. Ça a été vivement discuté dans les couloirs, parce que rien ne filtre au niveau des communications ou discussions. Même année 1860, la Société française d'archéologie, comme tous les ans, réunion pour savoir où on va faire le congrès de l'année prochaine. 13 villes sont proposées, c'était très recherché. Et pour raconter tout le compte-rendu, propositions, discussions, argumentations, choix, 12 pages. Parmi les 13 villes, Abbeville. Et je vous ai remis tout ce qui concernait Abbeville dans ce compte-rendu. Début. Abbeville, où le cabinet de M. Bouchet-de-Perthes excite vivement l'attention. Donc Bouchet-de-Perthes est bien au cœur du choix. Enfin, Bouchet-de-Perthes est la question qui va derrière. Réponse, y a pas de, on ne détaille pas. Abbeville pourra un jour obtenir le congrès archéologique. Donc rien n'est dit, mais je crois que tout est dit. Hein. Et comment on persiste, alors je vous passe les détails, comment on persiste pendant les années 60, c'est toujours de manière assez indirecte, jusqu'en 1867, où on trouve encore ceci. Dans le bulletin monumental, extrait d'une lettre adressée à M. de Comot, nouvelle d'exposition, donc il s'agit de l'exposition de 67 dont on a parlé à plusieurs reprises, lettre signée LMS et adressée à Comot. Sauf que LMS, c'est Comot. Lorsqu'il veut passer quelque chose d'un petit peu délicat, eh bien, il utilise cette signature. Et que dit-il ? Vous savez que j'ai peu de goût pour les silex et que je ne crois pas beaucoup à la mâchoire du moulin Quignon. Bon, donc on est encore dans le doute. Virage à 180 degrés en 1868, l'année suivante. Mais pas dans le cadre de la Société d'archéologie, dans le cadre d'une société de sciences naturelles fondée par Comot, la Société linnéenne de Normandie, à Caen. Alors c'est comme si c'était tout à fait naturel, c'est-à-dire que M. de Comot, au cours d'une séance, témoigne de son étonnement de ce que le diluvium du Calvados ait encore fourni si peu d'objets appartenant au premier âge de l'homme. Et pour inciter ses collègues, lui il a déjà pris de l'âge, hein, à aller sur le terrain, eh bien il présente des coupes du Calvados, mais sur lesquelles sont figurées à droite au niveau des flèches, analogues à Saint-Acheul, analogues à Moulin-Quignon, etc. Donc le virage est fait. Alors entre deux, l'abbé Cochet, bien évidemment, est resté un archéologue de l'histoire, avant tout, mais il ne se désintéresse pas, bien au contraire, de la question, on va dire, préhistorique. Et son rapport, le fameux rapport au préfet par le relais, évidemment, de Bouchet-de-Perthes, a été largement diffusé. 500 tirages à part, ce qui pour l'époque est énorme, que Bouchet-de-Perthes et Cochet distribuent très largement. Et c'est arrivé en particulier dans des revues, alors que je vais appeler intermédiaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des revues émanant de sociétés savantes directement, ce n'est pas la presse quotidienne qui a été évoquée tout à l'heure, ce sont des revues destinées, j'allais dire, à un grand public cultivé et qui s'intéresse à des sujets divers, donc parmi eux l'archéologie. C'est de la situation de la revue britannique, le Gentleman's Magazine, qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est aussi en France le Bulletin du bouquiniste ou la France littéraire. Et dans ces ouvrages, il y a eu des comptes rendus, voire des extraits élogieux du rapport de Cochet. Et donc, il apparaît comme une sorte d'expert, alors que ce n'est pas du tout son domaine. Et donc, on lui écrit. Et c'est dans ce contexte que commence une correspondance avec Gabriel de Mortillet, qui lui écrit dès 1862, et qui, ça peut paraître étonnant, mais en 1863, lui pose des questions sur ce qu'il pense scientifiquement des mégalithes. Qu'est-ce que vous savez, des menhirs, des dolmens, etc. Première correspondance aussi, alors là on le sait indirectement parce qu'il en a averti Bouchet-de-Perthes. En fait, l'abbé Bourgeois, hein, cet abbé qui s'est intéressé à l'homme tertiaire, et bien qui, en fait, après avoir vu le cabinet Bouchet-de-Perthes, s'adresse à Cochet pour lui demander son avis sur les hachettes de Saint-Acheul. Et après cela, en particulier dans le cadre de la commission départementale des antiquités, dont il est devenu un personnage clé, il est là à toutes les séances, il intervient à toutes les séances. Alors il parle beaucoup d'archéologie médiévale ou romaine, mais dès que en scène inférieure, on signale quelque chose qui correspond à ce qui peut être de la préhistoire, même s'il ne l'appelle pas ainsi, eh bien Cochet réagit, hein, et présente, alerte, etc. Et il intègre, bien sûr de manière réduite, mais dans ses ouvrages ultérieurs, la dimension de ces outils qu'il ne va pas appeler antédiluviens. Et donc, je vais conclure en sautant dans le temps, c'est-à-dire en allant en 1867, au moment de la tenue au Havre du congrès de la FAS, accompagnée d'une grande exposition qui permet donc de traiter, de tirer un bilan. C'est une exposition énoncée géologique et paléontologique, mais qui comprend aussi une section d'archéologie préhistorique. Elle se veut normande, et les membres de la Société géologique de Normandie qui l'ont organisée ont vraiment fait appel, en particulier par le relais de tous les instituteurs des 5 départements normands, à ce qui pouvait être connu. Alors bien sûr, il y a une diversité de facteurs explicatifs, je ne vais pas rentrer dans le champ, donc il ne faut pas avoir l'impression, enfin ce que je vais dire peut paraître un peu caricatural, ce n'est pas le seul facteur bien sûr, mais visiblement du point de vue répartition géographique, ce passé a joué un rôle. Qu'est-ce qu'on constate du point de vue de la préhistoire ? Une grande série de gisements de Seine inférieure, et pas seulement à Vray, vraiment tout le département. Un assez grand nombre dans l'Eure, un seul dans le Calvados, un gisement important en Landon, et quasiment rien à l'extérieur. Donc, il est probable que cette première histoire ait effectivement joué un rôle dans une propagation, si je puis dire, de l'intérêt pour la préhistoire différentielle. Ça se confirme lorsqu'en 1893 est fondée la première société s'intéressant à la préhistoire en tant que telle en France, la Société normande d'études préhistoriques, qui en fait est très ancrée au Nord, discussion à Rouen, puis à Évreux. Première séance inaugurale à Elbeuf, dans la région de Rouen, en présence d'une forte délégation de l'École d'anthropologie de Paris et sous la présidence de Mortillet. Donc on a là un des éléments expliquant le décalage. Mais il y a d'autres questions, en particulier les conditions de gisement. Voilà, je vous remercie. Voilà.
Donc je me trouve dans une situation un peu délicate. Je dois parler de la science d'un pays qui n'avait pas l'existence à cette époque-là. Et comme vous voyez, en 1795, la République des Deux Nations, l'État polono-lituanien, jade y comptant 1 million de kilomètres carrés, disparaît, partagé entre l'Autriche, Russie et Prusse, ensuite en Allemagne, pour 123 ans, sauf la courte période de la liberté, c'est-à-dire la libération par l'armée napoléonienne et des insurrections qui libèrent le pays juste pour quelques mois. Donc si on regarde, bien sûr c'est la période qui n'est pas homogène au point de vue des relations des institutions, et des hommes, mais si on regarde la politique des occupants envers la culture et la science polonaise, on remarque bien sûr la fermeture répressive des universités. Faut souligner que chaque fois après quelconque insurrection, quelconque mouvement indépendantiste, comme la répression, c'est la fermeture d'institutions, interdiction de langue. C'est aussi interdiction des activités des sociétés savantes qui ont caractère associatif. C'est pillage des bibliothèques et des collections scientifiques. Donc citons Varsovie, Vilnius. C'est de Vilnius 1865 autant intéressant que ce sont les collections des commissions archéologiques qui sont pillées par les Russes et après dispersées dans divers universités de l'Empire. C'est sans dire l'interdiction partielle de la presse. En fait, c'est arrestation, déportation et migration forcée des élites polonaises, y compris scientifiques. Enfin, c'est la politique de russification et germanisation de l'enseignement. Donc, dans cette situation, il n'est pas étonnant qu'à certains moments, les institutions scientifiques polonaises se forment en exil. Période après l'insurrection 1830-31, on appelle cette période de grande émigration. Vous avez ici à peu près 100 000 personnes qui arrivent en France après la perte des insurgés. Vous avez ici d'un côté certains symboles de cette émigration, alors ces sociétés historiques, littéraires et bibliothèques polonaises à Paris. À côté de ces sociétés, c'est d'autres sociétés comme Société Polytechnique, comme Société des Amis des Sciences, comme Société Aide Scientifique qui se forment. Portrait au milieu, c'est Prince Adam Czartoryski, celui qui est dirigeant spirituel et politique de cette émigration polonaise. C'est un homme, ce qui est aussi important, extrêmement riche. Il peut se permettre à soutenir certaines actions scientifiques, littéraires et politiques. À côté, vous avez deux personnages qui symbolisent bien cette période de cette émigration. Donc Adam Mickiewicz, le grand poète, mais aussi professeur de langue slave et de l'histoire à Collège de France. Et Ignacy Domeyko, qui est un des plus importants géologues polonais, qui est déjà formé au départ à l'Université de Vilnius et après à l'École des Mines à Paris. Il partira ensuite en Chili. Donc ça c'est un exemple, une des actions qui ont été menées grâce à cette émigration, c'est l'action de reconstitution des bibliothèques et des collections scientifiques polonaises en faisant appel aux Français et aux étrangers pour compenser exactement le pillage de la part d'Aris. Si on parle de cette émigration, on ne peut pas passer du silence à côté de Joachim Lelevel, qui est un historien de l'université Vilnius, plutôt médiéviste. Au moment de l'insurrection en 1831, il occupe le poste équivalent à ministre de l'enseignement et de la culture dans le gouvernement polonais des insurgés, donc il est obligé de s'exiler. Il s'exile en France, mais là où il fonde le Comité national polonais, il est très actif. En 1832, l'ambassade de la Russie obtient son expulsion du territoire de la France. Il est arrêté dans le domicile du général Lafayette, donc il était ami et il bénéficiait de son hospitalité. Et toute la France s'indigne. Donc comme Lelevel se rend dans son deuxième exil, il s'arrête dans différentes villes où comité de soutien se forme, où il y a les manifestations, donc il s'arrête à Abbeville. Et c'est exactement Boucher de Perthes qui préside le comité de soutien à Lelevel, qui donne à son disposition sa collection de monnaies et médailles, et qui reste en contact avec lui encore après que Lelevel quitte la France. Et donc c'est dans une lettre qui est datée 15 décembre 1845, Boucher de Perthes informe Lelevel qu'il a terminé son ouvrage « L'industrie ou d'art à leur origine ». Et c'est là où il informe aussi de son découvert. Disons, donc on peut dire que Lelevel, c'était une des premières personnes qui était tenue au courant des travaux de Boucher de Perthes. Mais ça n'a pas joué grand rôle dans l'introduction des découvertes de Boucher de Perthes dans la science polonaise. Rappelons aussi que Boucher de Perthes lui-même passa par la Pologne en revenant de la Russie. Donc il passa d'abord par Lituanie, après il se renda à Varsovie, où il rencontra Félix Jarocki, qui était zoologiste, spécialiste des faunes, surtout des mammifères. Et en passant par la forêt de Białowieża, Boucher de Perthes il voit les bisons d'Europe, qui existait seulement là-bas. Et donc, comme il connaissait, il pensait qu'il connaît cet animal, cette espèce seulement, de fouilles archéologiques, il a l'idée de reconstruire la faune d'ancienne Gaule. Il commence à négocier d'ailleurs avec Jarocki, d'un côté, comment on peut capturer cet animal, comment on peut obtenir permission des autorités russes. Cette tentative n'était jamais réalisée, mais malgré ça, il faut quand même souligner qu'en 1863, Bison de l'Europe était inscrit sur la liste des sociétés d'acclimatation de France comme espèce désirée en France, il devait être introduit exactement dans la région de Somme, apparemment. Donc, période qui nous intéresse est marquée en Pologne par l'insurrection de 1863. C'est une période qui, dans la partie de Pologne occupée par les Russes, est liée à une forte répression, donc plusieurs arrestations, plusieurs déportations, exil de plusieurs scientifiques. Du point de vue d'histoire, d'archéologie et préhistoire, marquons deux faits, donc exactement destruction des centres scientifiques au niveau de recherche archéologique à Vilnius en Lituanie, échec de tentative de créer société savant archéologique à Varsovie qui devait être créée autour d'une revue bibliothèque à Warszawska qui était d'ailleurs très favorable à Boucher de Perthes et aux premières recherches préhistoriques. Donc en Pologne, cette période qui suit chute de l'insurrection, c'est une période du positivisme qui, bon, ici vous avez photo de monument de Bolesław Prus, écrivain symbolisant pour les Polonais cette époque. Donc première idée, c'est remplacer l'idée de la lutte armée par l'idée du travail à la base. Donc d'abord éduquer, d'abord travailler, d'abord faire l'industrie, et après on aura notre indépendance. C'est aussi travail organique, c'est-à-dire société par ces gens-là est traitée comme un organisme. Chaque couche sociale doit avoir son rôle et bien travailler, comme ça l'organisme va marcher. C'est aussi une période de réforme agraire, industrialisation des pays, intégration des minorités, émancipation des femmes. Et ce qui est très important, c'est la période dans laquelle les élites polonaises donnent une grande importance, plus particulièrement aux sciences naturelles qui sont vues comme un moteur de progrès. Donc tous ces gens-là qui se réclament positivistes, ils sont pratiquement darwiniens, ils connaissent très bien Haeckel, ils connaissent très bien Spencer, ils font souvent l'appel à ces travaux. En archéologie polonaise, c'est basé sur le travail de M. Abramowicz, qui est un auteur incontournable pour tout ce qui est l'histoire d'archéologie en Pologne. On parle même de tournant positiviste en archéologie polonaise. Donc, première chose, c'est certain esprit critique et abondant de cette archéologie romantique qui recherchait la grandeur des peuples slaves. Plusieurs objets, comme célèbre pierre de Mycogène, d'ailleurs, sont revirés et interprétés. C'est aussi pour la, comme d'ailleurs ailleurs en Europe, tentative de faire certaines liaisons entre archéologie, paléontologie et considérer recherche archéologique comme apportant une information sur l'évolution de l'homme. C'est la période dans laquelle on recule l'âge d'origine de l'homme. En parlant de ces polémiques autour des découvertes décrites par Carol Liebel, surtout, qui incite la discussion. C'est enfin association à l'archéologie des sciences auxiliaires. Géologie, un peu moins, parce que c'est une période où il y a peu de géologues en Pologne. Après la mort des Eichner, faute qu'à Varsovie, il n'y a pas de faculté qui forme les géologues. Il n'y a que quelques cas, mais par contre, c'est l'époque où c'est surtout anthropologie et craniologie qui est associée aux recherches archéologiques. Enfin, c'est diverses institutions qui se forment de la nouvelle archéologie. Donc à Varsovie, c'est autour d'une revue Wiadomości Archéologiczne. À Cracovie, c'est la commission d'une académie de sciences et belles-lettres qui a caractère associatif, bien sûr, parce que l'autre n'était pas possible. Dans les parties de Pologne occupées par les Prussiens, c'est autour des sociétés savantes de Poznań et de Toruń où disons, l'archéologie se réorganise et modifie. C'est aussi période où le premier projet de publication d'une monographie sur les monuments préhistoriques en Pologne qui est lancé à Cracovie. En fait, c'est période de forte participation des Polonais dans les congrès archéologiques et enfin de professionnalisation du métier d'archéologue. Même si les archéologues ne peuvent pas toujours vivre de son métier, ils se consacrent à la façon permanente et uniquement à l'archéologie. C'est plus la période des gens qui étaient en même temps historiens, zoologistes, botanistes, archéologues, ça devient vraiment professionnel. Donc, suite à l'insurrection de 1863, Pologne est privée de l'absence de Bénédicte de Boski, qui est le plus éminent zoologiste de l'époque chez nous, qui est aussi le premier évolutionniste en Pologne, celui qui est vulgarisateur du darwinisme. Ses travaux, ils ont une grande valeur, non seulement par le fait de vulgarisation, mais par recherche originale sur l'évolution des populations animales. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à l'anthropologie. En fait, c'est lui qui est à l'origine des grandes affaires de Lvov qui partout oppose exactement la presse catholique aux partisans d'évolution. Et c'est lui qui est le plus grand défenseur de l'évolution. Donc, si on parle d'évolution en Pologne, il faut bien sûr avoir en mémoire les traductions des livres de Darwin. Donc, Darwin lui-même, dans son autobiographie, il a dit que Origin of Species a été traduit dans presque toutes les langues européennes, y compris bohémien et polonais. Il s'étonnait de cette traduction. Donc, cette traduction était commencée par Wacław Meisel, qui était embryologiste, un des découvreurs de cytokinèse. Mais par contre, il ne l'a jamais terminée. Donc, elle était reprise par un émigré qui était activiste du Parti socialiste à l'époque clandestine, qui fonctionnait entre Genève et Paris, Simon Dickstein. Et c'est, après, c'était terminé par Joseph Hilarowicz Nussbaum. Et c'est jusqu'au présent, disons, la meilleure traduction de Origin of Species en polonais. En fait, rôle vraiment prépondérant dans la naissance de préhistoire et discussion sur l'évolution revient aux élèves et collaborateurs polonais de Paul Broca. Donc, Isidore Kopernicki, qui se trouve en 1863, il est officier dans un surgé. Après être arrêté et interné en Autriche, il se trouve à Paris. Pendant une année, il travaille avec Broca. Et c'est Broca qui le convainc d'aller d'abord en Serbie à Belgrade et ensuite à Bucarest, où il est organisateur et conservateur du musée d'anatomie, première collection vraiment anthropologique dans cette région de l'Europe. C'est lui aussi qui mène recherche préhistorique, donc il est l'auteur de plusieurs publications. Enfin, c'est lui qui lance pour la première fois un programme de recherche nationale au niveau dans le domaine de préhistoire. C'est lui aussi qui est premier en Pologne tenir poste de professeur titulaire d'anthropologie. Donc, deuxième de ses élèves et collaborateurs polonais de Paul Braca, c'est Théophile Hudziński. C'est à lui que les Polonais doivent tout ce qui est anatomie des parties molles. Et l'usage essaye, dans cette théorie anthropologique, travaille sur le cerveau. Bref, transposition des conceptions de Broca en polonais, c'est fait par Hudziński, qui est préparateur de Broca. Enfin, à Varsovie, paraît une revue, donc j'ai déjà parlé, un équivalent de revue de Dumont en France. Et cette revue, il tient une chronique parisienne. Et c'est là où deux femmes, les deux émigrées à Paris, donc Séverina Duchińska, elle est fortement impliquée dans l'insurrection, elle ne peut pas, bien sûr, elle peut pas revenir dans la Pologne occupée. Et c'est dans cette chronique parisienne où, pour la première fois en polonais, sont tenues l'information sur la découverte des bouchers de Perth. C'est exactement cette revue qui informe ces discussions d'académie française au sujet des théories de Darwin et Origin of Species. C'est enfin cette revue qui informe aussi sur le livre des quatre fâches. Il faut dire que les ennemis des théories darwiniennes en Pologne, souvent, le plus souvent, utilisent exactement l'ouvrage de quatre fâches comme argument. C'est lui qui est l'auteur le plus apprécié parmi, si on peut dire, non-darwinistes de l'époque. Sur la photo à gauche, vous avez tombeau de Duchińska et son mari Franciszek Duchiński à la cimetière polonaise à Montmorency. Donc, citons encore exactement traducteur de l'ouvrage de quatre fâches, c'est Julian Ochorowicz, qui est psychologue, qui est ami et collaborateur de Charles Richet, qui est exactement émigré à Paris. Enfin, c'est à Paris où s'est créée la Société anthropologique et d'ethnographie polonaise, qui, pour le but principal, doit montrer l'existence de la science polonaise à exposition universelle, à partir d'exposition anthropologique en 1878. Ces gens-là, ils arrivent à réunir plusieurs institutions qui fonctionnent en Pologne, ainsi que plusieurs collections privées. L'exposition est considérée comme un grand succès. Bon, si on regarde aujourd'hui le catalogue, il faut voir que les spécimens ont valeur très variée du point de vue des scientifiques. Mais parmi ces collections qui sont montrées, il y a se trouve collection d'archéologues de Varsovie, excusez-moi, il y a erreur, c'est 427, la date de mort de Jan Zawisza, qui est premier à faire le fouille systématique des grottes dans la région de Ojców, qui est fondateur de revue Wiadomości Archéologiczne, donc premier numéro en 1873, entièrement consacré à préhistoire. C'est lui aussi qui est un homme extrêmement riche. Il achète le terrain qu'il trouve intéressant du point de vue des fouilles archéologiques et préhistoriques. Souvent, les sites sur lesquels les archéologues travaillent encore en Pologne préhistorienne, comme la grotte Jerzmanowska ou Nietopejowa, ont survécu grâce à cet achat de la part de Zawisza. Donc, si, pour conclure, rôle d'immigration polonaise dans l'arrivée autant de recherches, autant de théories d'évolution que recherches préhistoriques, tout d'abord, c'est la traduction, autant d'Origin of Species qui était faite par Dickstein, que aussi l'opposition donc de Darwin et ses précurseurs français. C'est information sur les travaux, les discussions scientifiques comme Węgierska et Duchińska sur Boucher de Perth. C'est l'organisation de manifestations scientifiques interdites par les occupants, donc cette exposition polonaise en 1878. C'est les bourses et soutien matériel aux recherches, donc société historique, mais aussi musée polonais à Rapperswil en Suisse. C'est publication des ouvrages interdits par la censure et organisation du trafic vers la Pologne. Enfin, c'est le rôle prépondérant des élèves de Broca dans la naissance d'anthropologie et le début des recherches préhistoriques en Pologne, c'est surtout dans la région occupée par les Autrichiens à Cracovie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.
Jusqu'à ce que l'archéologie préhistorique gagne sa pleine reconnaissance institutionnelle entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la question religieuse occupe dans les écrits des préhistoriens une place non négligeable. Cette toile de fond des questions religieuses affleure dans les publications, mais son aspect souvent assez sous-jacent nous invite également à être attentifs aux archives personnelles des préhistoriens. Et nous citerons notamment celles de Gabriel de Mortillet qui sont conservées en Allemagne, à Saarbrücken. Après 1859, le cercle des scientifiques qui gravite autour de la Société d'anthropologie de Paris se rallie rapidement à ce nouveau champ disciplinaire. Certains scientifiques conservent cependant une attitude réfractaire et nous pouvons citer comme l'un des bastions hostiles l'École des mines. Albert Delaparent, ancien élève d'Élie de Beaumont et jeune professeur au sein de cette institution, rédige en 1867 un poème à destination de ses étudiants qui synthétise en quelques rimes les principaux motifs de la méfiance qui s'attache à la préhistoire. L'engagement d'Albert Delaparent en faveur du catholicisme est assez profond. Poursuivant sa carrière prometteuse au service de la carte géologique de France, il décide en 1875 de participer à la fondation de l'Institut catholique de Paris, prenant en charge la création d'un département de géologie et de minéralogie. Il reste ensuite fidèle à cet ancrage qui s'avère un peu modeste et quelque peu en décalage par rapport à l'ampleur de l'aura scientifique que génère la publication de son traité de géologie, diffusé dans le monde entier après 1882. Alors je vais vous citer les vers qu'il rédige en 1867 à ses étudiants. « Si ces maudits silex dans le sein de la terre pouvaient être engloutis comme un fâcheux poison, mais hélas, il n'est pas un seul propriétaire qui dans son potager n'en rencontre à foison. Chacun, quand il lui plaît, vient en toute licence discourir sur le leus, le limon et consorts, sur les silex taillés et la vieille faïence, devant de vrais savants, dignes de meilleur sort. Celui-ci, sur un os, a cru voir une trace, qui d'un outil tranchant est le signe certain. Cet autre vous soutient que le mammouth vorace a vu le premier homme et mangé dans sa main. Certes, je sais fort bien qu'il n'est pas inutile de jeter quelques jours sur ces points ténébreux, de rechercher si l'homme est ou n'est pas fossile, et si le renne agile à traîner nos aïeux, mais devant un sujet d'aussi grande importance, il faudrait que chacun se laissât pénétrer d'un très vif sentiment de son insuffisance et réfléchisse cette fois avant que d'y entrer. » Donc si nous devions résumer, nous dirions que Delaparent dénonce ici l'amateurisme, la crédulité, l'arrogance des préhistoriens et l'aspect moralement néfaste de la discipline. Delaparent abonde plutôt dans le sens de séparer les domaines scientifiques et religieux, mais il reste tout au long de sa carrière attaché à relativiser l'ampleur de l'ancienneté de l'homme, considérant que les chronologies proposées par certains préhistoriens sont exagérées. Comme souvent, lorsqu'il est question du ressort religieux, la part de l'implicite est importante dans le choix des mots de ce texte. Mais les références au poison ou à la suffisance des préhistoriens sont pour les contemporains suffisamment claires pour que, sans qu'on ait besoin de le dire, la préhistoire se trouve liée dans les représentations à la question de la laïcité, de la sécularisation. La laïcité rend en effet compte des tensions qui traversent les groupes sociaux dans leur rapport au religieux, tensions qui sont vraiment manifestes entre les préhistoriens dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les préhistoriens participent également du processus de sécularisation, en constituant un savoir indépendant et en fournissant une lecture des origines qui s'autonomise graduellement de son arrière-plan religieux. Je dis graduellement, parce que Jean-Yves Potras l'a bien souligné, l'intrication dans les textes de Boucher de Perthes des notions d'archéologie et de métaphysique, notamment dans l'ouvrage ayant pour titre « De la création ». Donc, s'ils en ressentent les effets, les contemporains n'utilisent bien sûr pas le terme de sécularisation, mais la colère qui porte la plume de Delaparent en 1867 et qui motive également les critiques d'autres catholiques correspond bien à la crainte d'une dépossession. Le ton acerbe de Delaparent est également à resituer dans un contexte où, certes, le droit d'être indifférent en matière religieuse est reconnu, depuis l'instauration du régime pluraliste des cultes en 1802, mais concrètement encore, dans la société française, le poids d'une certaine réprobation sociale peut sanctionner ceux qui négligent leurs devoirs religieux. Et de fait, les études préhistoriques sont dans certains contextes parfois difficiles à défendre publiquement parce qu'attachées au niveau des représentations au camp anticlérical. La place qu'occupe Gabriel de Mortillet au sein de la discipline accentue sans doute cette tendance. Pour citer quelques archives retrouvées donc dans les archives de Mortillet, les traces de l'anticléricalisme de Gabriel de Mortillet sont vraiment très importantes quand on regarde les archives. Notamment, on trouve par exemple dans ces archives des dossiers thématiques qui rassemblent des notes ou des articles, des coupures de journaux de la presse anticléricale. Vous avez notamment un dossier qui rassemble des coupures et qui s'appelle « Le doigt de Dieu » et qui est une sorte de dossier à charge contre la prétendue justice divine où Gabriel de Mortillet a sélectionné des coupures de journaux qui relatent des catastrophes ayant causé la mort de fidèles dans des incendies d'église, des maladies mortelles qui ont été contractées à la suite de pèlerinages, ou alors des ouvriers qui sont morts dans des accidents, lors de rénovations d'églises, etc. Donc cette image de la préhistoire comme science anticléricale retarde sans aucun doute les possibilités de diffusion de cette science. Au sein d'un certain nombre de sociétés savantes, comme la Société polymathique du Morbihan par exemple, le choix est souvent fait parmi les sociétaires de se limiter à l'étude des périodes plus récentes de l'âge de fer ou du bronze. D'où qu'ils se situent, les préhistoriens doivent composer avec ce contexte qui peut avoir des conséquences sociales assez concrètes pour eux. Alors, citons encore un exemple fourni par les archives Mortillet. En 1876, vous avez le préhistorien Édouard Piette, qui est notamment spécialiste de l'art mobilier. Édouard Piette qui souhaite verser sa collection préhistorique à la commission archéologique de la ville de Reims, qui la refuse. Gabriel de Mortillet a vent de l'affaire et publie plusieurs articles dans le journal Le XXe siècle qui attribuent ce refus à l'archevêque de Reims. Édouard Piette est fortement contrarié d'apprendre, je le cite, que les journaux s'intéressent à l'affaire ou s'occupent de l'affaire. Il souhaite désintéresser l'archevêque. Et je le cite, voilà ce qu'il dit à Gabriel de Mortillet. « Si vous m'aviez prévenu, je vous aurais prié de ne rien publier relativement à l'exclusion dont ma collection préhistorique a été l'objet. J'ai un éloignement instinctif pour toutes les discussions publiques, surtout celles qui touchent à la religion ou à la politique. » Donc Piette s'inquiète concrètement des conséquences que cette polémique pourrait causer et il rappelle à Gabriel de Mortillet qu'il est juge de paix et que cette fonction l'oblige à vivre en bon rapport avec le clergé. Autres exemples d'intrication des enjeux, lorsque les préhistoriens font part de leurs difficultés à accéder à des postes académiques. Ils évoquent souvent une certaine hostilité. En 1885, Émile de Cartaillac essaye de pérenniser les cours libres qu'il donne à l'Université de Toulouse. Mais il redoute à juste titre de ne pouvoir réunir la majorité nécessaire. Et il explique son probable échec à Gabriel de Mortillet par le fait que ses collègues de l'université n'ont aucune sympathie pour l'anthropologie et que le doyen prend pour précepteur de ses enfants un abbé et que les nouveaux professeurs sont presque tous des catholiques résolus. Alors, Émile Cartaillac n'a cependant pas la veine intransigeante de son correspondant, Gabriel de Mortillet, et il cherche, pour limiter cet isolement dont il peut pâtir à Toulouse, il cherche quelques appuis parmi les catholiques. Et en tant que directeur des matériaux, il offre par exemple au vicomte Louis Rioux de Neuville un accès aux matériaux en 1875. Ce dernier, donc le vicomte Louis Rioux de Neuville, fait dans les matériaux plusieurs articles qui critiquent la classification de Gabriel de Mortillet et qui font l'apologie d'ouvrages concordistes. Cet auteur y expose notamment des arguments contre la classification de Gabriel de Mortillet. Selon lui, il y aurait eu de petites tribus errantes qui pourraient avoir connu différentes méthodes de fabrication d'outils et ainsi différentes traditions auraient pu cohabiter. Et les différences donc, d'outils ne dénotent en aucun cas un signe de progrès. Alors Gabriel de Mortillet, vous vous en rendez bien compte, s'inquiète de voir ses arguments diffusés dans les matériaux. Et en 1879, il écrit à son collègue pour se plaindre de cet accès laissé à cette revue. Alors Émile Cartaillac lui répond et explique qu'étant le collègue de cet auteur à la Société archéologique du Midi, il ne peut faire autrement que de lui laisser quelques tribunes, même si ses idées sont opposées aux leurs. Et il se défend, Émile Cartaillac se défend avec un humour un peu teinté d'ironie en disant « Je me casse la tête pour savoir si et comment les matériaux ont penché vers le cléricalisme. J'affirme avoir soigneusement évité cela. » Donc le bilan de cette opération donc, de se rapprocher avec les catholiques de Cartaillac est cependant assez mitigé, puisqu'il jette l'éponge quant à ce genre de concession faite aux membres catholiques de la Société archéologique du Midi en 1882. Il dit « J'ai cessé d'aller à la Société archéologique où, grâce à la faiblesse de nos universitaires, tout était à la gloire de l'Église et du roi. » En 1874, dans une lettre qu'il envoie à Gabriel de Mortillet, Émile Cartaillac installe d'ailleurs à ce sujet la préhistoire dans les habits de la République, s'alarmant de leurs difficultés respectives à s'imposer. La République n'est pas encore solidement installée, ancrée en novembre 1874. À Toulouse, Émile Cartaillac est aux premières loges pour constater les résistances des monarchistes et des bonapartistes dans la circonscription où il se présente à la députation pour le camp radical. Et Cartaillac s'inquiète face à cette recrudescence d'attaques dont la préhistoire est la cible, en soulignant que parmi les catholiques, le temps de la peur cède la place au temps de l'offensive. Selon lui, dans les premiers temps de la discipline, qu'il identifie à l'époque de l'Artais, les opposants se taisaient, étaient un peu comme tétanisés, et ceux-ci maintenant reprennent de l'assurance et mettent la focale sur les erreurs qui parsèment trop souvent les publications des préhistoriens ou de ceux qui s'attachent à la préhistoire. Émile Cartaillac se plaint que la préhistoire, je le cite, « marche à la dérive, sans boussole et sans contrôle ». Selon lui, n'importe quel explorateur qui fouille une grotte ou qui effectue quelques recherches peut se prévaloir du titre de pontife de la science, ce qui est dommageable pour la discipline lorsqu'il s'agit de catholiques qui sont attachés avant toute chose à défendre leur conception des dogmes catholiques. À l'avant-garde de ce mouvement, il cite, aux côtés de l'égyptologue François Chabas, le père de Valroger et le père athée, qui ne trouvent malheureusement en face d'eux que peu de sérieux contradicteurs, selon Émile Cartaillac. Et il dit à Gabriel de Mortillet, à part vous en tête et 5 ou 6 en France, je ne vois que des amateurs incapables de lutter avec succès. Nous entrons, comme en politique, dans le gâchis. Donc là, on voit bien la comparaison qui est faite entre la préhistoire et la République. Cartaillac et Mortillet se montrent très attentifs à ce sujet au sein des préhistoriens catholiques, au débat, et notamment à une controverse qui oppose l'égyptologue François Chabas et l'archéologue de Solutré, Adrien Arcelin, tous deux catholiques. Le soutien qu'a apporté Adrien Arcelin à la chronologie de Gabriel de Mortillet, ainsi que la collaboration avec le savant parisien, entraîne des réparties assez hostiles de la part des catholiques vis-à-vis de la préhistoire envers Adrien Arcelin. Alors, un des catholiques qui essaye de s'opposer à Adrien Arcelin est François Chabas, qui est créateur en 1874 de l'égyptologie, du journal L'Égyptologie, et qui est membre de la Société d'archéologie biblique londonienne. Et c'est François Chabas, il loue un terrain et effectue des fouilles à Solutré pour essayer d'établir un dossier à charge contre Arcelin et plus généralement pour oblitérer la crédibilité des travaux des préhistoriens en général. François Chabas se plaît, comme l'apparent le faisait en 1865, à présenter les fouilleurs de Solutré comme des amateurs qui rendent toute vérification impossible et qui travaillent sans contrôle extérieur, oubliant de dire notamment qu'une délégation de l'Association française pour l'avancement des sciences avait été reçue. Chabas s'appuie sur les travaux de l'égyptologue allemand Lepsius pour défendre l'emploi simultané dès les temps reculés de la pierre, du bronze et du fer et statuer contre la classification préhistorique. Il s'agit, la plupart du temps, de faire rentrer au bercail des temps historiques les silex trouvés en Europe et en Égypte et de nier le terme préhistorique. Adrien Arcelin répond à son contradicteur chez l'éditeur Renwald et compagnie, l'éditeur parisien de Gabriel de Mortillet, vraisemblablement d'ailleurs grâce à l'intermédiaire de ce dernier. Les attaques de Chabas ne se placent jamais concrètement sur le plan de l'orthodoxie religieuse, mais pour Adrien Arcelin, l'affaire est entendue. Et il répond aux accusations sous-jacentes en utilisant l'ironie. Et il refuse clairement et assez fermement à son contradicteur l'apanage de la défense religieuse. Il lui dit « Une entente sera d'autant plus facile entre nous que vous devez être persuadé comme nous, alors nous c'est les catholiques, qu'une erreur scientifique ne peut en aucune façon servir les intérêts spiritualistes et catholiques dont nous sommes autant que vous, messieurs, les défenseurs convaincus et dévoués. » Alors cependant, Arcelin, s'il se montre ferme, d'un autre côté, se montre un peu ambigu. En effet, il concède un peu du terrain au plan du vocabulaire. Et il concède notamment à ses contradicteurs que le terme préhistorique est mal dit, parce que potentiellement source de malentendus. Par exemple, lorsqu'il expose sa conception de la préhistoire dans une perspective chrétienne, dans une revue catholique qui s'appelle Le Correspondant, il revient sur les mécomptes, je le cite, de la phraséologie spéciale de la préhistoire, qui, sous des apparences inoffensives, cache des pièges. Toutes ces expressions, âge de la pierre, temps préhistorique, race primitive, développement progressif, qui appartiennent au nouveau vocabulaire préhistorique, archéologique, n'auraient jamais dû y entrer parce qu'elles prêtent à l'équivoque. Donc, vous voyez un petit peu l'ambiguïté d'Adrien Arcelin, qui, dans ses publications scientifiques, utilise ce vocabulaire et, dans les publications catholiques, le relativise. Selon Adrien Arcelin, la préhistoire pêche de se distinguer trop nettement de la tradition religieuse. Discours relativement proche de ceux détenant du concordisme, comme François Chabat ou l'abbé Pierre Amar, auxquels il s'oppose pourtant. Donc, comme d'autres auteurs catholiques attentifs à ne pas rejeter tous les acquis de la préhistoire, et là je pense notamment à Ernest Dassy ou à Anna Dayak, Arcelin éprouve régulièrement le besoin de réduire la portée de l'universalité des classifications d'usage. L'universalité se situe pour les catholiques davantage dans les acquis humains, issus de dons divins, que dans les stades progressifs des cultures industrielles. Pour conclure, on peut voir que les questions religieuses influencent autant les rapports sociaux que les contenus des discours dans la discipline naissante de la préhistoire. Clémence Royer, traductrice en France de Darwin, et l'abbé Ravaille, qui est un des pionniers de l'archéologie avéronnaise, peuvent nous mettre sur la piste d'une explication parmi d'autres. Clémence Royer dit que l'étude de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, sortira la science de ce que nous pouvons être. Et l'abbé Ravaille, quant à lui, dit que l'histoire de l'homme est la grande école de la morale et de la philosophie. Ce qui fut contient en germe et couve ce qui a été et ce qui sera. Ces deux individus, qui ont des croyances bien sûr on ne peut plus opposer, s'accordent pour attacher à la préhistoire un horizon d'attente utopique. Et voilà qui conditionne bien des débats au sein de la première archéologie préhistorique.
Merci bien. Vous venez d'entendre Fanny de France sur la question religieuse dans la première archéologie préhistorique. La précédait Monique Rémy-Vatté sur la naissance de l'archéologie préhistorique en Normandie autour des années 1859. Et puis Piotr Daskiewicz nous parlait du rôle des immigrés politiques dans la réception du darwinisme, la naissance de l'anthropologie et le début des recherches préhistoriques en Pologne. Restez à l'écoute de Canal Academy et téléchargez les trois autres volets consacrés à l'histoire de la préhistoire, un colloque qui avait lieu en juin 2009 à l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Pour plus d'informations, connectez-vous au site de la Fondation de l'Institut de paléontologie humaine et restez à l'écoute de Canal Academy. Cliquez sur notre thème paléontologie préhistoire et retrouvez nos émissions en compagnie du professeur Henri Delumelay, Arnaud Hurel, Amélie Vialet, Yves Coppens, Philippe Janvier, Philippe Taquet et bien d'autres. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.